Dans les coulisses de toutes les maisons qui façonnent des produits haut de gamme ou luxe, la modestie est là en fil rouge de toutes les étapes de création puis de fabrication. Et c'est vrai que c'est méconnu, on n'y pense pas du tout. Et je pense que c'est ça la richesse de tous les métiers d'art qui existent en France et dans le monde, c'est qu'ils ne cultivent pas la suffisance et qu'ils placent justement la modestie au cœur de leurs actions. On ne pense pas assez à à la quantité de personnes en fait, qui se trouvent derrière l'objet que l'on achète dans un magasin. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'étapes et de mains et d'hommes qui participent en fait à la création de tous ces objets.
Avant de commencer, êtes-vous prête à explorer la créativité à travers le prisme de la modestie ? Si c'est le cas, bienvenue sur Almas Podcast. Le but ultime est de tendre vers l'excellence avec élégance, que ce soit dans nos projets entrepreneuriaux ou notre qualité de vie. Chaque semaine, retrouvez une conversation avec une femme pétillante et créative qui partage son parcours, ses réflexions et ses inspirations. Tous les autres jours, je me prête à l'exercice en vous partageant une toute petite réflexion en lien avec la notion de modestie. J'ai deux petites faveurs à vous demander. Premièrement, remerciez l'invité pour son temps et sa générosité. Ensuite, abonnez-vous au podcast, notez-le 5 étoiles et partagez-le avec des personnes qui pourraient être intéressées. Ces actions sont totalement gratuites, mais leur valeur est inestimable. Merci d'avance si vous y pensez. Enfin, pour avoir accès direct et immédiat à toutes les références artistiques, mode et livres recommandés par l'invité, abonnez-vous aux Lettres Lumière via le lien en description. Et maintenant, sans plus attendre, place à notre conversation. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Diane.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Mais merci à toi de m'avoir invitée sur Almaz.
Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases s'il te plaît ?
Oui, je suis donc Marie de Jourdan, je suis parisienne et je dirige Aimée, une jolie marque de souliers féminins fabriquée en France par des ateliers d'exception.
C'est une très belle présentation. En plus, je me rappelle que quand je t'avais contactée sur le sujet de la modestie, tu m'avais dit que c'était un sujet qui te parlait beaucoup, notamment dans ton travail avec Aimée. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la modestie dans la mode ?
Oui, alors effectivement, quand tu m'as contactée, j'étais justement en train de préparer le tournage d'un film savoir-faire à l'atelier. Un film consacré à la mise en valeur des mains, des gestes des artisans qui donnent vie à nos souliers. Et du coup, c'est vrai que le parti pris de ton podcast a résonné comme une évidence, car je crois en fait que dans les coulisses de toutes les maisons qui façonnent des produits haut de gamme ou luxe, la modestie est là en fil rouge. Elle est en fil rouge de toutes les étapes de création puis de fabrication. Et c'est vrai que c'est méconnu, on n'y pense pas du tout. Et je pense que c'est ça la richesse de tous les métiers d'art qui existent en France et dans le monde, c'est qu'ils ne cultivent pas la suffisance et qu'ils placent justement la modestie au cœur de leurs actions. Et moi, c'est ce qui me passionne et fait qu'au quotidien, je travaille sans travailler, tout simplement.
Et la modestie serait aussi une manière de célébrer tous ces savoir-faire qui travaillent dans l'ombre, on va dire.
Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne pense pas assez à à la quantité de personnes en fait, qui se trouvent derrière l'objet que l'on achète dans un magasin. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'étapes et de mains et d'hommes qui participent en fait à la création de tous ces objets.
Et j'imagine qu'avec ta marque Aimée, tu les côtoies au quotidien.
Exactement, nous on a beaucoup de chance et qu'on travaille donc avec des ateliers français spécialisés dans leur domaine et que voilà, on travaille vraiment en quatre mains. C'est un travail de collaboration énorme parce que ils sont en fait gardiens d'un savoir-faire pour certains plus que centenaire, et du coup ils nous accompagnent dans nos créations, dans la mise au point. C'est vraiment un travail d'échange très fertile qui nous permet à nous aimer de proposer des souliers qui sont différents de ceux qu'on trouve ailleurs, hein, et qui sont riches en fait de ce savoir-faire que nous on qualifie d'exceptionnel, tout simplement.
Et avant de reparler en détail d'Aimée, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours ? Quelles études as-tu fait?
Alors moi, j'ai fait une prépa, puis j'ai intégré l'ESCP, qui est une école de commerce généraliste, hein, qui m'a formée au métier du marketing. Pendant et à la suite de mes études, j'ai travaillé en marketing et aux achats, dans l'univers de la beauté principalement.
Et c'était un choix de ta part ou ça t'est arrivé, t'as eu une opportunité que tu as saisie?
En fait, je pense que j'ai démarré dans la beauté complètement par hasard. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai poursuivi dans ce secteur. J'y ai trouvé beaucoup de plaisir parce que c'est un univers qui vise quand même à... alors, c'est la beauté féminine à rendre, qui place la femme au cœur de ses actions. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'ai vraiment eu envie... d'autres choses. J'ai ressenti en fait le besoin de travailler à mettre en lumière des objets porteurs de sens de manière vraiment plus profonde. Et c'est là que je me suis lancée en fait dans le grand bain de l'entrepreneuriat.
Par contre, je suis désolée, je te coupe
oui,
un peu,
dis-moi.
Mais tu es allée un peu vite parce que moi j'aimerais juste un peu revenir sur ton expérience dans la beauté. Tu travaillais en tant que. Quel était ton rôle?
Alors, j'ai travaillé quand j'étais junior comme chef de produit marketing, donc en développement ou opérationnel pour des produits de soins. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé aux achats en fait pour le maquillage pour un distributeur. Et du coup, voilà, c'est des métiers qui m'ont différents, qui m'ont beaucoup appris. Beaucoup de rencontres, beaucoup une formation très très solide en fait sur mon métier du marketing. Après, c'est vrai que le défaut peut-être de cette industrie, c'est d'être parfois dans une surenchère de la technicité, c'est-à-dire toujours un mascara avec plus de poils, plus de brosse, plus de rotation qui fait des cils encore plus longs. Et c'est vrai qu'il y a une forme peut-être d'absurdité à vouloir toujours produire plus de résultats. Voilà. Mmh. Et c'est ça qui m'a donné envie peut-être d'aller me développer différemment avec un autre produit, en fait, tout simplement.
Et au-delà de ça, sur l'aspect, on va dire, technique, quelles sont les principales leçons, les principaux enseignements de ces années dans cette industrie?
Alors, en fait, l'industrie de la cosmétique, c'est une industrie qui est très technique. Donc, c'est vrai que... On s'improvise pas en fait laboratoire maquilleur enfin en fait c'est des produits parce qu'il y a cette nécessité d'assurer une innocuité des produits qui sont sûrs pour le consommateur. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques et ça c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup formée en fait à accepter en fait que d'aller vraiment dans le détail de tous les détails en fait qu'un produit peut demander pour atteindre une perfection dans son esthétique mais surtout dans son usage, dans le résultat qu'il promet.
Et tu as tout appris sur le tard parce que ta formation elle était vraiment purement orientée marketing et business, mais l'univers de la beauté en soi, c'est quelque chose que tu as appris pendant tes années d'expérience.
Exactement, c'est tout à fait, c'est vraiment un parcours d'entreprise. Et du coup, je crois que ça m'est resté, en fait, effectivement, cette persévérance à vraiment être capable de décortiquer tout, d'aller vraiment dans le détail des choses pour atteindre un résultat le plus parfait possible.
Et avant de terminer cette étape dans tes années en entreprise, quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui souhaiteraient entreprendre dans la beauté?
Alors, j'aurais tendance à leur conseiller d'aller vers des marques qui sont en train de prendre en compte les tournants de société, les attentes du consommateur sur des produits qui sont plus écologiques et respectueux de la planète. Parce qu'effectivement, il y a, je pense, toute une nouvelle routine beauté à réinventer avec comme ligne rouge la recherche de plus de simplicité, voilà, renouer avec des gestes de beauté plus simple et naturel. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire autour de ça et de renouer en fait ces gestes avec le plaisir. Donc c'est la sensorialité, le plaisir olfactif, voilà, pour que ces gestes de beauté en fait traditionnels trouvent aussi leur raison d'être au XXIe siècle avec le plaisir à l'usage, en fait. Parce que c'est vrai que le produit bio et respectueux de la planète, mais qui colle et qui sent mauvais, c'est pas une bonne idée, en fait. Voilà.
Et donc, toi, tu es restée dans cette industrie pendant à peu près combien d'années?
Et du coup, j'y ai travaillé pendant 8 ans.
Donc après ces 8 années dans l'univers de la beauté, pourquoi avoir décidé de partir ?
Oui, alors c'est vrai que comme je le disais, j'ai eu envie de renouer avec des objets porteurs de sens. Je crois que j'ai toujours été fascinée en fait par l'habileté manuelle et aussi qu'on m'a transmis enfant le goût des choses rares, bien confectionnées, avec de jolis matériaux. Et du coup, c'est vrai que l'expression en fait de ces richesses, elle se fait très bien en fait dans l'objet de mode et notamment dans l'accessoire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait ce choix un peu fou de m'offrir cette liberté et de quitter mon job pour consacrer mon énergie à développer là en l'occurrence en fait des souliers avec Aimé.
Moi, ce que je me demande, c'est comment tu en es arrivée à te dire exactement je veux créer une marque de souliers, parce que généralement la plupart, j'ai envie de dire, des personnes, elles décident de se lancer dans la mode, dans le vêtement, mais toi tu as choisi le soulier qui est beaucoup plus niche, j'ai envie de dire. Pourquoi particulièrement se concentrer sur le soulier?
Alors en fait, j'ai eu comme une étape intermédiaire avant d'arriver directement au soulier, parce que dans un premier temps, j'ai créé une toute petite marque de maroquinerie fabriquée par des artisans selliers en Argentine. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers du travail du cuir. Et de fil en aiguille, c'est à travers en fait de cette création d'entreprise que j'ai rencontré une personne qui avait initié en fait une marque de souliers pour femmes, et en fait j'ai repris cette marque qui est devenue Aimée. Et du coup c'était un travail, enfin une transition en fait en étapes, c'est-à-dire de la beauté, j'ai été sur l'accessoire, sac à main, sac de voyage, et pour enfin arriver en fait aux souliers.
Et si on revient un peu sur cette étape de transition, est-ce que ça a été facile de créer une marque de maroquinerie?
Non, ce n'était pas facile du tout, parce que en fait c'est le marché de la mode de manière générale, c'est un marché qui est très encombré. Il y a beaucoup d'offres, et du coup c'est difficile en fait d'arriver sur un marché encombré avec un nouveau produit. Donc c'est vrai qu'il y a en permanence cette quête de valeur ajoutée qui est présente dans le travail pour en fait avoir sa raison d'être, parce que si on fait la même chose que ce que fait le voisin, ça n'a pas vraiment de sens. Donc du coup, c'est vrai que moi, je m'étais beaucoup interrogée là-dessus, et c'est pour ça qu'on avait ce sourcing très spécifique de l'artisan sellier en Argentine, qui offrait en fait un travail très différent, qui n'était pas du tout proposé en fait sur le marché français.
Et comment tu as trouvé ton fournisseur en Argentine? Tu le connaissais déjà ou?
Alors moi, j'ai une mère argentine, voilà, qui fait que j'avais des attaches familiales et personnelles avec ce pays. Et du coup, c'est comme ça, effectivement, par par relation, connaissance et puis aussi recherche, hein, beaucoup de rencontres, que j'ai trouvé l'atelier qui correspondait à ce que je souhaitais réaliser.
Donc, toute la fabrication de la maroquinerie se faisait en Argentine, qui était après importée en France.
Exactement. Et après, à l'issue de cette expérience, en fait, grâce à cette expérience, en réalité, ce n'est pas à l'issue, j'ai effectivement fait la rencontre d'une personne qui avait démarré une petite histoire de souliers pour femmes sur un concept, sur cette idée en fait, de personnalisation. Et voilà, c'est cette société du coup que j'ai reprise et qui est devenue Aimée.
Et pourquoi Aimée? Ça m'intrigue vraiment le nom. C'est très beau, mais j'ai envie d'en savoir plus.
Alors Aimée, c'est un anagramme de Marie quelque part. Si c'était le verbe aimer à l'infinitif, bien sûr. En fait, on avait envie de nommer. Cette histoire par un nom positif, solaire, court et facile à retenir. Et en fait, on s'est dit, Aimé, c'est un prénom magnifique. Moi, j'ai trois petites filles. J'aurais pu en avoir une quatrième qui s'appelait Aimée. Et donc, c'est ma société finalement. Mais c'est vrai que non, on avait envie de traduire aussi l'idée qu'en coulisses de ce qu'on propose, il y a beaucoup de cœur à l'ouvrage en fait. Et, on peut appeler ça, c'est l'amour du travail bien fait quelque part tout simplement.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Aimée s'écrit A-Y-M-E. Et eux, pourquoi et eux, pourquoi cette féminisation?
Parce que dans notre travail, alors c'est vrai qu'on est une équipe de femmes, et dans notre travail, on est toujours dans la recherche en fait de beaucoup de féminité. On l'associe aussi à une forte recherche en fait du confort, mais c'est vrai qu'on perd jamais de vue en fait cette élégance féminine. On n'est pas du tout sur des lignes. Androgyne, on est vraiment toujours dans une certaine délicatesse, et du coup c'est vrai que Aimée et eux c'est vraiment imposé comme une évidence.
Et quand tu as repris cette petite marque, est-ce qu'il avait déjà cet ADN féminin très fort, ou c'est toi qui as fait évoluer aussi l'image de la marque que tu as repris?
Alors je pense que les bases de la féminité étaient présentes. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité faire durer et qu'on a conservé. Mais c'était déjà là, et c'était, je pense aussi, déjà en fait une des forces et une des raisons pour laquelle il y avait un attrait pour le produit.
Et donc, pour un peu essayer de bien imaginer les étapes, tu rencontres cette personne, tu décides de reprendre sa société, sa marque, tu changes de nom, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une nouvelle collection, tu crées un nouveau site. Quelles sont les étapes de cette aventure et du développement d'Aimée?
Alors, on a beaucoup consolidé le cœur de métier, donc qui était la proposition de personnalisation des souliers en magasin, donc en boutique. Donc on a une très jolie boutique dans le 17e dans laquelle on reçoit nos clients, deux, parce qu'on ne fait pas d'hommes encore, ou peut-être pas d'ailleurs jamais. Mais du coup, en fait, on a consolidé donc ce cœur de métier qui était la proposition de personnaliser des souliers, de créer des souliers uniques. Donc on avait donc ça, on l'a beaucoup développé, notamment autour du mariage, parce que ce concept en fait séduit énormément les mariés qui sont à la recherche pour ce jour exceptionnel d'un soulier unique et complètement en fait sur mesure en fonction de leur du lieu où elles se marient, des choix esthétiques qu'elles ont pu faire, voilà. Et du coup, on a également en fait développé une petite ligne de maroquinerie pour exploiter notamment les fins de cuir qui pouvaient dormir sur l'étagère parce que il y avait eu des bains de couleur qui avaient été légèrement modifiés d'une fois sur l'autre, pardon. Et du coup, on a développé une petite ligne de maroquinerie pour qu'il n'y ait pas de matière dormante en fait à l'atelier.
Mmh.
Voilà, donc ça a été un travail de sourcing spécifique d'un atelier maroquinier qui se situe dans le sud-ouest de la France.
Et comment vous l'avez trouvé ?
Alors, on l'a trouvé, ça a été une rencontre, en fait, je crois, sur un salon, tout simplement, un salon du Made in France. Une rencontre, un échange, à un moment, on était en prospection, une carte de visite qu'on a gardée, qu'on a fini par ressortir, et voilà, et le lien s'est fait. Et du coup, c'est bah, d'ailleurs une très belle rencontre atelier marque, en fait, parce que c'est des gens de très grande qualité et talentueux. Avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Et puis là, notre grosse actualité, c'est aujourd'hui en fait l'aboutissement en fait d'un projet que l'on a mis au point pendant plusieurs années et c'est qui se concrétise au travers d'une gamme de souliers destinés à un usage plus quotidien, donc sans talons. Donc, ce projet en fait, il prend vie autour de deux modèles, le derby et la ballerine. Et donc ça a été un projet de longue haleine, parce que contrairement à ce qu'on pense, le plat c'est beaucoup plus difficile à mettre au point finalement qu'un soulier à talons. Donc il y a eu un énorme travail de recherche pour avoir des lignes parfaites et puis surtout ne pas négliger le confort.
Et comment ça se fait ? Parce que c'est vrai que j'aurais tendance à penser que le plat est plus simple à réaliser que les talons. Comment ça se fait que ce soit l'inverse ?
Alors en fait, grâce aux talons, le pied est naturellement en fait plus élancé. Et c'est vrai que dès qu'on n'a plus de talons, il est dans un volume beaucoup moins flatteur. Et donc du coup, c'est vrai que l'enveloppe qui est le soulier qui doit mettre en valeur le pied est beaucoup plus difficile en fait à dessiner que quand on est quand on a un petit peu de talon, et notamment dès qu'on arrive dans des pointures un petit peu plus grandes que le 38-39, voilà, il faut avoir des lignes qui sont extrêmement bien posées pour que le soulier garde tout son caractère et son élégance même quand on arrive dans des pointures plus grandes. Donc, c'est un travail très exigeant.
Et pour cette collection, vous proposez aussi la personnalisation ?
Alors, pour l'instant, non. On a pensé cette collection au travers de 6 choix couleurs-matières qui sont des choix très bien pensés. On y a injecté en fait, des classiques, bien sûr, mais aussi des choses plus atypiques, notamment... on travaille avec des cuirs métallisés, des cuirs lézards, des cuirs vernis qui sont nos cuirs signatures, qui sont des cuirs qu'on retrouve, qui sont quasiment peu, qui sont très peu en fait travaillés par les autres marques, et donc qui nous sont finalement assez spécifiques et voilà qui donnent cette allure très unique en fait au produit. Et on espère qu'il va rencontrer son public et que bientôt on pourra offrir le service de personnalisation autour de ces modèles.
Et comment se passe le choix des cuirs ? Parce que tu as dit que vous travaillez avec des cuirs très spécifiques. Comment vous effectuez ces choix ?
Alors, on a des fournisseurs avec lesquels on travaille depuis longtemps qui font évoluer en permanence leur catalogue. Et donc, du coup, on travaille avec eux en quatre mains pour voir ce qui pourrait nous correspondre, avoir du sens. On échantillonne, on fait des essais. Et puis, on est en veille permanente auprès de fournisseurs qui ne sont pas forcément nos fournisseurs du quotidien pour dénicher la nouvelle matière qui pourrait séduire nos clientes.
Et pour un peu revenir sur la personnalisation de la chaussure, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est rare, c'est la première fois que j'entends cette notion de personnalisation dans le soulier. Et quelles sont concrètement les étapes ? Est-ce que, par exemple, la cliente, elle vient sur le site ? Quel choix a-t-elle devant elle ? Et comment après se passe la production jusqu'à la chaussure finale ?
Alors, nous, aujourd'hui, on fait le choix que cette expérience de personnalisation, ce soit une expérience humaine qui se concrétise en fait en boutique. Donc la personnalisation, on ne l'offre pas en fait aujourd'hui à distance via par exemple un simulateur. Et du coup, donc la cliente en fait prend rendez-vous, on l'accueille en boutique pour à peu près 45 minutes, une heure d'échange. On partage avec elle les raisons pour lesquelles elle cherche un soulier unique. Donc si c'est pour une occasion particulière, on essaie de détailler pour quelle occasion, est-ce que il y a une tenue particulière qui a été choisie ou pas. Si c'est pour le quotidien, à l'inverse, on pose des questions pragmatiques de savoir quel va être l'usage du soulier, les contraintes de la garde-robe, etc., pour vraiment bien cerner quel est le besoin de la personne. On va bien sûr procéder à un essayage des modèles pour qu'elle puisse trouver en fait dans nos modèles celui qui va le mieux correspondre en fait à sa morphologie de pied. C'est vrai qu'on est très vigilant en fait sur l'adéquation du modèle avec la morphologie de pied de la cliente. Après, on va en fait accompagner la personne dans son choix de cuir couleur matière. Donc c'est un travail qui demande un accompagnement parce qu'on a une carte très fournie de 200 cuir couleur au choix. Donc du coup, on va guider en fait ces associations pour que la personne en fait puisse vraiment donner naissance à un soulier qui est parfaitement unique mais qui est parfaitement calibré en fait pour l'usage qu'elle souhaite en retirer. Et puis un élément qui est fondamental aussi, c'est le choix du talon, bien entendu. Donc là on permet à la cliente en fait de choisir le style et la hauteur de son talon, ce qui est un confort en fait énorme parce qu'on n'a pas toutes la même capacité à porter un talon fin et haut. Donc on a aussi des talons plus bas et plus épais pour offrir de la stabilité et voilà, avoir une offre très complète. Et après, bien sûr, le soulier va être, une fois qu'on aura terminé le rendez-vous, le soulier va être envoyé en fait à l'atelier. Et là, c'est un travail minutieux parce que l'atelier, les artisans vont démarrer la production spécifiquement pour la paire de la cliente. Donc, ça veut dire choisir dans l'étagère les bons cuirs, couper les cuirs pour tel modèle, dans telle pointure. Donc, c'est vraiment en atelier, en confection, un travail à la pièce et unique en fait pour la personne qui a commandé.
Et ça prend combien de temps après à la réalisation d'une pièce, d'une paire sur mesure ?
Alors, on est sur un délai de 4 à 6 semaines.
Donc, c'est du vrai, ça prend énormément de temps.
Alors, c'est long et pas long à la fois, parce que c'est vrai que je pense que dans le plaisir aussi de cette expérience, l'attente, en fait, est déjà un plaisir quelque part. Hein. Et c'est vrai que 4 semaines, ça passe très vite, en fait. Mais néanmoins, c'est le temps nécessaire pour enchaîner de manière fluide toutes les étapes et puis sachant qu'elle se coordonne aussi avec d'autres commandes, donc c'est un peu c'est le temps du beau, on va dire.
Oui, c'est ça, quand je disais que ça prend du temps, c'était de manière positive, dans le sens où les belles choses prennent du temps en fait.
Exactement, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans ce film Atelier que j'évoquais au début de l'interview. C'est effectivement ce qu'on a souhaité montrer en invitant donc au travers de ce film nos clients dans les coulisses de notre fabrication. C'est effectivement que la fabrication d'un soulier, c'est environ 150 étapes distinctes. Donc il y a énormément de petites étapes différentes et c'est cette succession de gestes très bien exécutés qui amène à un soulier parfait. Et c'est vrai que cette patience, elle est nécessaire. Et c'est intéressant justement de retrouver cette attente, en fait, tout simplement.
Et je trouve ça très intéressant parce que malheureusement, parfois, avec la fast fashion, on n'arrive pas à se rendre compte du temps que ça prend de réaliser vraiment une pièce de qualité. Et surtout qui s'inscrira dans la durée, parce que j'imagine que vos souliers, ils sont de qualité telle qu'on peut les porter pendant plusieurs années sans perte de qualité.
Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est de consommer moins mais mieux et d'avoir un soulier donc de qualité dont on va prendre soin et qui va durer plusieurs années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas le même prix qu'un soulier bas de gamme, ça c'est évident. Mais effectivement, il a une durabilité beaucoup, beaucoup plus élevée et encore plus si on le bichonne, c'est-à-dire que on met des embauchoirs, que on le brosse, qu'on l'imperméabilise, qu'on le range soigneusement dans une étagère à l'abri de la poussière, de la lumière. Voilà, il y a tout un. Donc ça, c'est des choses qu'on explique bien sûr. Que de temps en temps, on lui fait faire un petit fresh chez le cordonnier. C'est effectivement retrouver aussi, renouer avec tous ces gestes d'entretien. Qui permettent de faire durer l'objet. Et donc ça, c'est, je pense, très intéressant, surtout aujourd'hui, d'aller vers cette consommation en fait, plus durable.
Et ce qui est encore très intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un vrai lien émotionnel qui se crée entre le soulier et la personne qui les porte. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on s'était parlé au téléphone la dernière fois, je crois que tu m'avais dit que parfois il y a des clientes qui reviennent peut-être 2 années plus tard en te disant qu'elles veulent exactement ce soulier-là qu'elles avaient acheté il y a 2 ans.
Oui, effectivement, c'est vrai que je pense qu'un soulier dans lequel on est bien, donc un soulier qui épouse le pied tout simplement, on n'a pas envie de le quitter, on voudrait qu'il dure à jamais. Alors malheureusement, c'est vrai que la chaussure, c'est contrairement à d'autres objets, néanmoins difficile qu'elle puisse durer toute une vie, mais c'est vrai qu'on tend à s'approcher à une durée maximale et c'est vrai que oui, il y a un attachement fort des clientes à un soulier qu'elles ont aimé porter parce qu'elles ont été bien dedans et parce que il s'est marié facilement à plein de tenues. Ça, c'est vrai que c'est assez rigolo, c'est un objet assez affectif, tout à fait.
Et maintenant, si on parle un peu de la partie marketing d'Aimé, comment vous communiquez ? Est-ce que vous faites des salons ? Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux ?
Alors, on a effectivement une présence sur les réseaux sociaux au travers d'Instagram, de Facebook. Historiquement, on a souvent participé à des salons mariage pour présenter la marque auprès des futurs mariés. Alors c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, ces événements ne peuvent pas avoir lieu. Et après, ce qui est vrai, c'est qu'on bénéficie d'un énorme bouche à oreille. C'est-à-dire que nos clientes, parce qu'elles aiment ce qu'on fait et elles aiment leurs souliers, elles parlent de nous. Et c'est vrai que du coup, par recommandation, on a beaucoup de personnes qui viennent à nous naturellement, sans pour autant avoir entendu parler de nous par des communications plus institutionnelles.
Et je trouve qu'il n'y a pas mieux comme communication marketing que le bouche à oreille.
Ben, c'est vrai qu'on est très flattés en fait de faire partie des marques citées et relayées par celles qui les expérimentent. Ouais, tout à fait.
Et maintenant pour terminer cette, ça fait combien de temps que Aimé a été créée?
Et du coup, ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans. Et quels sont les projets d'avenir que tu pourrais peut-être partager d'Aimé?
Alors, les projets d'avenir, c'est toujours en fait persévérer sur notre ligne et nos partis pris, à savoir en fait conserver nos piliers, le zéro stock, les lignes justes qui dépassent les tendances, la recherche du confort, le souci du détail. Et on se souhaite en fait de conquérir de plus en plus de pieds, voilà, pour que cette histoire elle dure et qu'elle nous permette aussi d'exprimer notre créativité au travers de nouveaux modèles qui seraient complémentaires à l'offre actuelle.
Et vous êtes présent à l'international ?
Aujourd'hui, pas du tout. Non, c'est vraiment une histoire franco-française. On a des clientes. Alors, on n'est pas du tout diffusé à l'international. Néanmoins, on a des clientes Europe et hors Europe qui nous aiment beaucoup et qui sont très fidèles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de distribution hors de la France. Voilà, néanmoins, quelqu'un qui voudrait acheter une paire de souliers, on pourrait lui expédier, bien entendu, mais c'est vrai qu'on n'a pas de relais à l'international.
Et c'est un choix de votre part ou c'est peut-être dans vos ambitions futures de conquérir le monde?
Alors, c'est vrai que Modestement, on a toujours pensé que, bah, avant d'aller conquérir le monde, c'était bien peut-être d'aller conquérir ceux qui étaient près de nous. Donc voilà, donc c'est pour ça que notre histoire, elle est française. Je pense qu'avant d'aller conquérir le monde, on aura certainement l'envie d'être plus proche des clientes qui sont en province. Naturellement, dans un premier temps, dans les grandes villes. Et puis, on se souhaite évidemment après de pouvoir franchir les frontières.
On vous le souhaite aussi. On aura l'occasion de suivre l'aventure parce que je mettrai les liens dans la description. Et maintenant, si on passe à la partie plus centrée sur tes inspirations, quelles seraient peut-être les marques ou les créateurs qui incarneraient ta vision de la modestie dans la mode?
Alors en fait, aujourd'hui, moi, je suis très admirative du travail opéré par les créateurs français de robes de mariée parce qu'en fait, ils renouent en fait, avec une façon de fabriquer à l'ancienne, c'est-à-dire que où la cliente est au centre en fait, de la création. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur rendez-vous et ils créent très souvent en fait, en sur-mesure pour la cliente. Et souvent, c'est des petites structures où les personnes sont polyvalentes et la fabrication est souvent internalisée. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un secteur qui est très créatif et très dynamique et qui renoue aussi avec des savoir-faire techniques qui sont en perte de vitesse ou quasiment oubliés. Et donc ça, c'est vrai que nous, on a la chance de côtoyer tous ces créateurs et parce qu'on est on travaille beaucoup le soulier pour la mariée et on est fan en fait de ce travail et on leur souhaite à tous de pouvoir grandir parce que c'est une nouvelle façon en fait de travailler. Qui est, je pense, quelque part l'avenir.
Parce que c'est vrai aussi que les créateurs de mariée se doivent vraiment d'être à l'écoute de la cliente parce qu'ils s'apprêtent à créer une pièce qui va servir à la cliente pour potentiellement le plus beau jour de sa vie, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais, exactement. En fait, c'est un créateur qui est complètement décentré parce que tout son énergie, son travail, elle est pour sublimer en fait la cliente et s'adapter à la manière dont elle a dessiné ce jour qui est effectivement très unique dans sa vie.
Et maintenant, si on part un peu plus dans le monde de l'art, est-ce qu'il y aurait des artistes qui incarneraient ta vision de la modestie dans l'art ?
Alors moi, je suis toujours très touchée par les artistes femmes, qu'elles soient peintres, sculpteurs, car en fait, je trouve il y a toujours en fait beaucoup de douceur et de modestie en fait dans leurs œuvres. On peut penser à Sonia Delaunay, Marie Cazat, il y en a plein d'autres en fait. Je trouve que dans le travail féminin, il y a toujours en fait un certain retrait et beaucoup d'équilibre et beaucoup de place en fait pour la personne qui regarde l'œuvre.
Et ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement, surtout même dans l'histoire, elles ne sont pas assez mises en avant. Parce que quand on pense à des artistes, on a beaucoup plus des noms masculins en tête que des artistes féminines, alors qu'il y en avait énormément qui faisaient aussi, comme tu l'as dit, un travail remarquable.
Oui, malheureusement, c'est vrai que elles ont souvent été dans l'ombre, parfois reconnues à la fin de leur vie. En fait, elles n'ont souvent pas eu de reconnaissance de leur vivant. Mais enfin, pas toujours, mais souvent. Et c'est vrai qu'effectivement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup évoluer. Petit à petit, en fait, les femmes vont avoir toute la lumière qu'elles méritent de leur vivant. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Et espérons que la tendance va vraiment continuer dans ce sens-là.
Tout à fait.
Et si maintenant on parle de la créativité de manière générale, comment tu nourris ton inspiration ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Comment tu trouves l'inspiration ?
Alors, je crois qu'en fait, ce qui est l'inspiration, il faut avoir un regard en fait en éveil permanent. L'inspiration, elle est un peu à chaque coin de rue. Et c'est vrai qu'en particulier, moi, ce qui m'inspire, c'est la nature. Alors, bon, c'est vrai que comme je suis parisienne, la nature, elle n'est pas forcément au bout de la rue, malheureusement. Mais j'ai la chance de pouvoir m'évader régulièrement. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration immense, notamment pour la couleur. Nous, la couleur, c'est quelque chose qui est très structurant dans notre travail, la couleur et la matière. Et dans la nature, effectivement, quand on l'observe, on obtient plein de suggestions, de nuances et d'associations colorielles. Et ça, c'est vrai que c'est une observation qui nous remplit et nous aide énormément.
Et en parlant de la nature, quels sont les endroits du monde ou en France qui t'inspirent le plus?
Alors, la campagne française, dans toute sa simplicité, est magnifique. Et puis, plus récemment, j'ai eu la chance de passer du temps à la montagne, et la montagne, c'est aussi un vivier d'inspiration incroyable, parce qu'il y a, je pense, cette immensité qui apaise l'esprit et permet de recevoir davantage ce qu'on observe. Je pense qu'on a beaucoup de chance, en fait, en France, d'avoir un environnement aussi riche et varié. Donc voilà, je dirais qu'effectivement, la campagne et la montagne sont peut-être les environnements qui me plaisent énormément en ce moment.
Alors là, on n'est pas du tout dans un paysage parisien pour une parisienne.
Non, c'est vrai, exactement, non, pas du tout. Mais pour autant, j'aime le macadam parisien.
Oui.
Je suis encore prête à y renoncer totalement.
Donc c'est bien juste d'avoir en fait des parenthèses de temps en temps pour reprendre de l'énergie et après retourner
exactement
au bouillon parisien. Et est-ce que tu lis beaucoup?
Alors j'essaye de lire le plus possible parce que c'est pareil, je trouve que dans l'écriture on puise beaucoup de recul et aussi d'inspiration parfois. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est plus difficile de lire et où en fait je vais être plus dans un certain plus feuilleté un magazine. La décoration est quelque chose qui m'apaise énormément, tout ce qui est magazine de décoration. Je trouve que c'est quelque part un voyage à chaque fois. Et c'est vrai que voilà, il y a les magazines, il y a aussi des mines d'or sur Internet, surtout en ce moment où on ne peut plus arpenter les brocantes et du coup, voilà, on peut chiner pour le plaisir des yeux. Sur Internet, ça peut être déjà à commencer par Le Bon Coin, où on peut trouver plein de choses, mais c'est aussi sur des plateformes comme Célancy, on trouve plein d'idées et de choses qui ne sont pas forcément directement liées à notre univers, mais qui nous inspirent.
Parfois même, je trouve qu'on s'inspire beaucoup plus de choses qui ne sont pas forcément dans notre univers. Par exemple, j'imagine que dans Le Soulier, tu peux trouver l'inspiration dans des univers totalement différents, en fait.
Oui, tout à fait. Il y a plein d'univers qui sont connexes à celui du soulier de par la fabrication, le soin, la technicité qu'on doit y apporter. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, on trouve parfois des sources d'inspiration dans des sujets qui ne sont pas directement le nôtre, tout à fait.
Et juste rapidement, pour revenir sur le livre, quels sont tes livres préférés? Est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais nous recommander qui t'ont particulièrement marqué?
Alors, récemment, j'ai lu toute la saga d'Elena Ferrante, dont le premier tome s'appelle « L'amie prodigieuse ». Donc, c'est une fresque qui parle de femmes, d'amitié, d'amour et qui en fait retrace le parcours d'une petite fille et son combat en fait pour progresser, s'extraire d'une situation familiale très, très modeste. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attache énormément aux personnages. Il y a tout un détour aussi, à un moment dans le livre, autour de la fabrication de souliers. Donc ça, c'est vrai que ça m'a intéressée. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un livre qui m'a touchée, que j'ai trouvé intéressant à titre historique, mais aussi à titre personnel sur effectivement la difficulté pour certaines petites filles de grandir et les grandes ressources qu'elles doivent puiser en elles en fait pour réussir à tracer leur chemin de vie.
Je ne connaissais pas du tout, ça a l'air intéressant, ça donne vraiment envie en tout cas. Et est-ce que tu avais un autre livre à conseiller ?
Et après, l'autre livre pareil, qui m'avait énormément plu, c'est La Tresse. Donc, c'est un livre qui est écrit par Laetitia Colombani. Et c'est le destin croisé de trois femmes avec des profils qui sont très attachants et très touchants. Et là, pareil, c'est des histoires de vie. Il y a notamment un portrait très touchant d'une petite fille en Inde. Et là aussi, effectivement, c'est... C'est un livre qui soulève la prise de conscience sur le fait que naître femme, c'est pas la même chose en fonction du pays du monde dans lequel on est. Voilà, donc c'est pareil, c'est des destins de femmes qui sont riches d'enseignements et c'est un livre qui est intéressant, qui est prenant à lire et qui est intéressant à titre personnel.
Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais les deux livres que tu as mentionnés parlent d'histoires de femmes. Ce sont des histoires qui t'intéressent particulièrement ou c'est une pure coïncidence que ce soit tes livres préférés ?
Alors, c'est vrai que moi je suis maman de trois petites filles et je suis moi-même, j'ai trois sœurs. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'imagine que c'est des sujets qui me touche parce qu'effectivement ça fait ces histoires de femmes, c'est aussi des histoires, c'est l'histoire de ma vie et de mon quotidien. Et c'est vrai, quand on est maman de petites filles, on se pose beaucoup de questions sur comment est-ce qu'elles vont grandir, évoluer dans la société. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en France, moi je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que nos petites filles, elles ont beaucoup de possibilités. Donc même s'il y a toujours plus à conquérir, mais c'est vrai qu'effectivement c'est des sujets qui m'interpellent, je pense.
C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. Je les connaissais pas et je mettrai les liens en description. On va passer alors à la question de la fin. Quelles évolutions aimerais-tu voir dans le monde de la mode ?
Alors, je pense que ce qui serait souhaitable, c'est qu'on renoue avec une mode plus durable. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout au long de l'interview, mais c'est vrai que consommer moins mais mieux devrait devenir un art de vivre. On y arrive avec l'alimentation, en fait, pas à pas. Et du coup, je pense qu'effectivement, il faudrait y arriver pour notre armoire, notre vestiaire, se dire que voilà, on ne cède pas à une frénésie de consommation compulsive sur Internet. Il y a plein d'actions, en fait, qui peuvent être mises en place pour justement atteindre cette idée de consommer moins mais mieux.
Et maintenant, pour terminer, si on veut te retrouver, te contacter, où est-ce qu'on peut le faire ?
Alors, ça peut être en boutique, donc rue Le Mercier au numéro 29 dans le 17e. Mais ça peut, bien sûr, surtout en ce moment, être sur notre site aimer.com, Instagram, aimer Paris.
C'est noté. Je mettrai tous les liens dans les descriptions. Et merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté mon invitation.
Merci, Diane. Merci à toi.
Et je te dis à très bientôt.
À bientôt. Au revoir, Diane. Merci.